D'abord, vous lirez le texte liturgique de cette fête du cœur immaculé de Marie au 22 août. L'épître est tirée du livre de l'Ecclésiastique. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi réside toute ta grâce de la doctrine et de la vérité, toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits, car penser à moi est plus doux que le miel, me posséder plus doux qu'un rayon de miel. Mon souvenir subsistera d'âge en âge. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne sera pas déçu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile, selon saint Jean, en ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, et Jésus dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voici votre mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Veuillez vous asseoir. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, il y aura peut-être un peu de retard aujourd'hui pour la vidéo de la messe. J'ai eu un problème d'ordinateur, j'ai changé mon ordinateur et il faut tout remettre en place, c'est un peu compliqué. J'ai eu aussi deux annulations, une pour la retraite d'octobre et la retraite de septembre. Donc j'ai deux places, une place pour la retraite d'octobre du 18 au 23 octobre et une place aussi pour la retraite de septembre du 13 au 18. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est le pape Pie XII qui, en 1942, a institué cette belle fête du cœur immaculé de Marie. Il a voulu que le jour octave de la fête de l'Assomption soit dédié au cœur immaculé de Marie. Et on a bien besoin de méditer sur ce cœur de mère. S'il est une caractéristique du monde moderne, du monde sans Dieu qui nous entoure, je pense que c'est bien celle-ci. On est dans un monde dur, un monde sec, un monde qui a perdu justement le sens de Dieu. Et ce sermon sera un peu la continuation du sermon que je vous ai déjà donné dimanche dernier pour le 15 août, dont j'avais expliqué que le bon Dieu avait fait la prophétie au démon, après la prévarication d'Adam et Ève, quand Adam et Ève se sont fait rouler par le démon, qu'est-ce qu'avait dit le bon Dieu? Il avait prévenu que la très sainte Vierge Marie serait celle qui allait diviser le monde en deux groupes. Je mettrai une inimitié, a-t-il dit, entre ta race, dit-il au démon, et la race de la femme. Entre les enfants du démon et les enfants de la Vierge. Et donc, en quelque sorte, il y a deux cœurs. Deux cœurs qui vont s'opposer. Le cœur, c'est en principe les passions. Il y a soit des passions au service du bon Dieu, soit des passions au service du monde et du démon. Soit un cœur sec, un cœur aride, un cœur de marâtre, un cœur centré sur la haine. Je pense que le point particulier du monde moderne, c'est la haine. Le monde moderne, c'est un monde qui a perdu Dieu et qui est donc rempli de haine. Rempli de haine. C'est donc à la base, la haine est à la base de toute la révolution. Vous supprimez la haine, vous supprimez la révolution. Le marxisme, c'est quoi? C'est la haine. La haine érigée comme principe universel de toute la société. Donc, haine contre la famille, haine contre Dieu, haine des enfants contre les parents, haine de toute forme d'autorité. Le marxisme, c'est ça. C'est une haine dialectique, si vous voulez, pousser les gens les uns contre les autres. C'est pour ça que la base du marxisme, la base de la révolution communiste et socialiste, c'est la haine entre les différentes classes de société, qu'on appelle la lutte des classes. Ça, c'est Marx. Alors, en face de ce cœur sec qui correspond, ce que j'avais commencé déjà à vous expliquer dimanche dernier, qui correspond au cœur de la révolution laïque, maçonnique, républicaine, démocrate, appelez ça comme vous voulez, du 14 juillet, vous avez le cœur de notre Sainte Vierge Marie. Le cœur de notre Sainte Vierge Marie, c'est le cœur du 15 août. C'est le cœur de la France catholique. C'est un cœur non plus de marâtre comme le cœur du 14 juillet, mais un cœur de mère, rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de beauté. Tout est fondé sur, dans l'Église catholique, justement, sur ce cœur de Marie. C'est Saint Bernard qui va jusqu'à dire que même si on mettait ensemble, dans un seul cœur, tout l'amour qui est dans tout le cœur des mères de famille pour leurs enfants, on n'obtiendrait pas l'amour d'être Sainte Vierge Marie pour ses enfants. Elle a eu un enfant naturellement, tout en restant vierge, notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle a aussi notre mère adoptive. Donc nous sommes les enfants de la Vierge. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile d'aujourd'hui a été choisi. Pour bien montrer que nous sommes les enfants de la Vierge. Notre Seigneur Jésus-Christ va mourir sur la croix. Il a achevé son sacrifice. Il a achevé de remplir son contrat avec son Père, en quelque sorte, pour mourir pour ces hommes qui étaient coupables et qui ne voulaient pas reconnaître leur culpabilité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est immaculé, qui est absolument innocent, va prendre notre responsabilité pour nous ouvrir les portes du ciel. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Et qu'est-ce que va faire notre Seigneur juste avant de mourir? Il va dire à sa mère qui est au pied de la croix, qui se tient au pied de la croix en douleur, en pleurs, « Mère, voici votre fils. » De quel fils parle-t-il? De Saint Jean qui est au pied de la croix. Saint Jean qui vient d'être ordonné prêtre. Saint Jean qui vient la veille d'être consacré évêque. Les pères de l'Église expliquent tous de la même façon que Saint Jean présente l'Église. Et donc, quand Dieu dit à sa mère, « Mère, voici votre fils », c'est son Église qu'il confie à sa mère. Et puisque nous sommes membres de l'Église militante par le baptême, donc ce jour-là, au pied de la croix, la très sainte Vierge Marie confie à sa mère, au cœur de sa mère, au cœur immaculé de Marie, l'ensemble des membres de l'Église. Donc nous sommes fils de la très sainte Vierge Marie. Et il va dire à Saint Jean, « Fils ». Voici votre mère, pour bien expliquer la chose, être sûr qu'ils ont compris tous les deux, fils, voici votre mère. Donc non seulement il confie l'Église catholique à sa mère, mais il demande à l'Église catholique de reconnaître notre Sainte Vierge Marie comme notre mère. Nous avons donc deux mères, une mère ici-bas qui est imparfaite, et une mère parfaite, pratiquement parfaite au ciel, qui est notre Sainte Vierge Marie. Et une deuxième chose à remarquer tout de suite, l'Évangile finit en disant, Jean, après cela, l'a pris chez lui. Donc non seulement la très sainte Vierge Marie est confiée à Saint Jean, pour bien montrer cette confiance extraordinaire que Dieu a mis en Saint Jean, la très sainte Vierge Marie, Saint Jean va prendre chez lui la mère de Dieu. La tradition nous dit que la très sainte Vierge Marie restait avec Saint Jean jusqu'à sa mort. Elle assistait à la messe de Saint Jean tous les jours. Et il faut méditer sur ces choses-là. Donc, il nous faut vraiment, tous les matins, nous confier à notre Mère du Ciel, dire à notre Sainte Vierge Marie, « Vous êtes ma mère. » Notre Sainte Vierge Marie va vous répondre, « Vous êtes mon fils, vous êtes ma fille. » Avec toutes les conséquences que cela entraîne. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses-là. Lorsque on invite notre Sainte Vierge Marie dans notre âme, dans notre cœur, parce que c'est ce qui se passe, encore faudrait-il que notre maison soit propre. On peut recevoir notre Sainte Vierge Marie comme Saint Jean a reçu notre Sainte Vierge Marie dans une maison toute sale. Si notre maison, notre âme est pleine d'ordures, pleine de saleté, qu'il y a la poussière partout, qu'il y a des ordures partout, notre Sainte Vierge Marie ne va même pas oser rentrer dans notre maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par se purifier. C'est là qu'on peut utiliser l'évangile du jour, l'évangile du 13e dimanche après la Pentecôte, en Saint-Luc. Et en ce 13e dimanche après la Pentecôte, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle d'un miracle qu'il a fait auprès de 10 lépreux. 10 lépreux qui viennent à notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont les pestiférés littéralement de la société de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, ayez pitié de nous. Purifiez-nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ a une réaction un peu étrange. Il est Dieu, il pourrait immédiatement guérir ces lépreux. Très bien, soyez purifiés, il l'a déjà fait plusieurs fois. Non, il ne les guérit pas tout de suite. Il leur dit, allez voir les prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. Et alors que les lépreux se mettent en chemin pour aller voir le prêtre, les prêtres de l'Ancien Testament, qui pourtant étaient des prêtres qui n'avaient pas le pouvoir de pardonner les péchés, sur le chemin, ils sont guéris. ils sont guéris. Et un seul va revenir, c'est un samaritain. Vous voyez, on voit très bien, c'est important de comprendre cela parce que le bon Dieu a voulu passer par les prêtres. Ça, c'est ce que les protestants, les modernes, ne comprennent pas du tout. Pourquoi voulez-vous que j'aille me confesser à un prêtre? Alors, je peux me confesser directement au bon Dieu. La réponse, elle est là. Allez vous montrer au prêtre. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser le prêtre comme un instrument pour obtenir le pardon des péchés. Malgré toutes les misères du prêtre, qui est un homme comme vous et moi. Et ceci permet de répondre à une autre objection qui est similaire, qu'on entend tout le temps. Et pourquoi voulez-vous passer par la très sainte Vierge Marie, puisque je peux aller directement à Dieu? J'ai eu une fois en retraite une protestante qui est venue faire la retraite, qui ne s'est jamais convertie à cause de ce point. Vous savez, pourquoi je dois passer par la très sainte Vierge Marie? Moi, je veux passer directement par Dieu. Je n'ai pas pu la baptiser, j'ai refusé de la baptiser alors qu'elle demandait le baptême. Lui, tant que vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas vous baptiser, c'est un dogme de foi. La très sainte Vierge Marie est intermédiaire. Elle me disait-elle, mais c'est ridicule, c'est comme si un jeune homme de 18 ans va demander les clés de la voiture à son père, il refuse de prêter la voiture à son fils, donc il va demander à sa mère pour avoir les clés de la voiture derrière le dos du père. C'est pas du tout comme ça, parce qu'avec la très sainte Vierge Marie, il n'y a aucune opposition entre la volonté de la mère et la volonté du fils. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, donc il y a une union intime entre le Père, la Mère et le Fils, entre notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sainte Vierge Marie. Mais une fois qu'on a compris ces choses-là, on rentre dans un mystère, le mystère extraordinaire de cette union que Dieu lui-même a voulu entre le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas confier sa mère n'importe où, il va confier sa mère au pied de la croix. Alors le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore ouvert, puisqu'il va être ouvert dans quelques minutes. La dernière parole de notre Seigneur, littéralement, avant de mourir, c'est de confier son Église à sa mère, et confier sa mère à Saint Jean. Puis il va mourir, et à ce moment-là, le soldat romain va ouvrir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et va sortir de ce cœur le sang et l'eau, symbole des sacrements. Donc c'est l'Église littéralement qui s'ouvre sur la croix avec l'ouverture du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la très sainte Vierge Marie a été placée au pied de la croix parce qu'elle est l'aqueduc, dit Saint Bernard. L'aqueduc qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur ouvert de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. Pour entrer dans l'Église, il faut passer par la très sainte Vierge Marie. Donc quelqu'un qui n'a pas de dévotion envers la très sainte Vierge Marie ne peut pas rentrer dans l'Église, ne peut pas rester dans l'Église, il est obligé de quitter. Et on le voit très bien dans le monde moderne. Ce mépris très, très fréquent qu'on voit dans l'Église moderne pour la très sainte Vierge Marie. Dès qu'on parle du rosaire, du chapelet, les gens modernes de l'Église du Vatican II vous disent que ce soit quoi de répéter tout le temps la même prière, le même Je vous salue Marie 50 ou 150 fois par jour. Et donc c'est là, il faut comprendre ceci, c'est extrêmement important. La très sainte Vierge Marie est l'intermédiaire voulu par le bon Dieu. Pour nous sauver. Il y a une autre raison, d'autres raisons aussi pour laquelle le bon Dieu voulait passer par la Sainte Vierge. La première, c'est pour détruire l'orgueil de l'homme. L'homme veut tout obtenir par lui-même, par ses propres forces. Donc Dieu va demander à l'homme de passer par quelqu'un qui, humainement parlant, est très faible, à savoir la Sainte Vierge Marie. Les anciens appelaient le sexe féminin le sexe faible. Ça ne veut pas dire que c'est un sexe, le sexe féminin pas capable d'aller au ciel. Ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Mais c'est pour bien montrer, obliger l'homme à pratiquer l'humilité, reconnaître que Dieu a voulu passer par la Sainte Vierge Marie. Et une autre raison très belle donnée par les pères de l'Église. Ils disent de la même façon que le malheur est arrivé sur le monde par une femme, Ève, de la même façon, Dieu va sauver le monde par une femme, avec un grand F. Cette femme avec un F majuscule, c'est la très sainte Vierge Marie. Donc la nouvelle Ève, Marie, rattrape la prévarication de la première Ève. Alors, il y a d'autres objections auxquelles je voudrais répondre rapidement pour être sûr que vous comprenez bien tout cela. Parfois, on nous dit, on entend ça aussi régulièrement, mais monsieur l'abbé, c'est vrai qu'il y a une opposition totale entre le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie d'un côté, le cœur de la France catholique du 15 août, et d'autre part, le cœur de la Révolution. C'est vrai, mais Est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux cœurs dans le même corps? C'est pratique d'avoir deux cœurs. Il y en a un qui ne tombe pas, l'autre peut-être le deuxième. Ah, vous savez, moi j'ai deux cœurs. Alors, j'ai un cœur que j'utilise le dimanche de 10h à 11h30, et je ne me trompe pas de cœur, assurez-vous, je branche le bon cœur du dimanche matin quand je vais à la messe. C'est le cœur immaculé de Marie, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis catholique devant le Saint-Sacrement. Mais dès que je sors de là, dès que je sors de l'église, je débranche le cœur pur de la Sainte Vierge Marie, le cœur d'amour, et je remplace par le cœur de haine, parce que, monsieur l'abbé, je vais être obligé de vivre dans le monde moderne pendant toute la semaine. Vous avez déjà vu un homme avec deux cœurs? Un deux cœurs, tout s'écroule, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Et ça, c'est une objection extrêmement fréquente. Monsieur l'abbé, je suis catholique, le dimanche, 11h, 11h30, un peu plus si l'abbé Lafitte était trop bavard pendant son sermon, et en semaine, je vis avec le monde. Eh bien, il faut bien comprendre que si j'essaye d'appartenir à deux sociétés qui s'opposent en tout, si j'essaye de mettre mon amour dans deux cœurs qui s'opposent en tout, dans un cœur de chair, le cœur de la Sainte Vierge Marie, un cœur de pierre, le cœur de la Révolution de 1789, eh bien, je vais m'auto-détruire littéralement. C'est ce qu'on appelle le catholicisme libéral. Le catholicisme libéral qui a commencé à pointer le bout de son nez autour des années 1830 avec Lamennais, c'est ça, plaire à la fois à notre Seigneur Jésus-Christ et au monde. Plaire à l'Église de Vatican II et à l'Église catholique. Comment voulez-vous que ça marche? Beaucoup de gens sont comme ça. Leur cœur, leur âme, si vous leur intelligence, est écartelée entre deux vérités totalement différentes. C'est le problème du libéralisme. Le libéralisme, c'est ça, c'est l'amour, donner les mêmes droits au vrai et au faux. C'est Pilate qui donne les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre objection qu'on entend très très souvent, donc c'est une objection que les gens qui nous disent: oui, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, mais vous comprenez, les temps ont changé. Aujourd'hui, monsieur l'abbé, on s'est aperçu, ce qu'on ne savait pas avant, où les gens au Moyen-Âge vivaient un peu comme des esclaves, paraît-il. Aujourd'hui, monsieur l'abbé, nos yeux se sont ouverts, nous ne mourrons pas, nous deviendrons comme des dieux. Et nous allons déterminer par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une objection extrêmement fréquente qu'on entend tout le temps. À quoi correspond cette objection? Aux quatre mensonges, précisément, que Satan a proférés pour rouler dans la farine Ève puis Adam. Et donc, il faut faire attention parce que nous sommes malheureusement influencés par ces quatre mensonges. Dès que vous ouvrez la télévision, vous écoutez la radio, regardez n'importe quel média de grande audience, c'est ce que vous avez partout. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Qu'est-ce que répond l'Église à tout cela? À la première objection, vous mourrez, nous ne mourrons pas. Ça, c'est le transhumanisme d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on va pouvoir changer les pièces défectueuses de notre corps pour créer en quelque sorte des nouvelles pièces artificielles dans la longueur de journée. Alors on a un cœur un peu malade, on met un nouveau cœur. On a des poumons malades, on met un poumon artificiel. Ou qu'on va pêcher chez un pauvre mourant quelque part. Eh bien attention, attention à ça. Face à cette affirmation, l'homme moderne ne mourra plus. L'homme moderne deviendra éternel. Qu'est-ce que l'Église affirme? L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Nous sommes créatures, donc nous sommes des êtres finis, nous ne sommes pas des êtres éternels. Nos yeux s'ouvriront, disent les modernes, face à cette absurdité. Qu'est-ce que l'Église catholique répond? Nous ne connaissons pas tout, parce que nous ne sommes pas Dieu. Comment voulez-vous que l'intelligence humaine, qui est grosse comme un demi-pois chiche, puisse comprendre l'intelligence divine qui est infinie? Et donc nous avons une cécité intellectuelle, une cécité morale, un aveuglement intellectuel, un aveuglement moral qui fait qu'on a un mal fou à comprendre ce qui se passe et à comprendre ce que nous devons faire. Nous sommes extrêmement doués pour servir le démon, mais extrêmement, nous sommes comme des aigles pour servir le démon et comme des taupes pour servir le bon Dieu. Ah mais, monsieur l'abbé, depuis la Révolution et surtout aujourd'hui, depuis mai 68 en France et dans le monde moderne, monsieur l'abbé, il y a une autre chose qui est vraie, qui est devenue vraie, c'est que nous sommes devenus des dieux. Mais non, encore une fois, nous sommes des créatures. Nous ne pourrons pas accepter le panthéisme. Et la dernière objection, alors celle-là, on l'attend toutes les 5 minutes. L'homme maintenant décide. ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Pendant des siècles et des siècles, c'est Dieu qui nous a tout dit. Ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire. Un seul Dieu, tu adoreras, il faut faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, c'est ce qu'il faut pas faire. Mais monsieur l'abbé, depuis la Révolution, maintenant, on a changé de paradigme, on a changé de société. Maintenant, c'est l'homme lui-même qui devient, étant devenu Dieu, peut décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ceci est la base de toute la révolution actuelle et la base de la révolution dans l'Église qui s'appelle la révolution du Concile de Vatican II. Vatican II, c'est quoi? C'est l'introduction de la liberté de conscience. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Vous savez que la liberté de conscience a été condamnée par l'Église de façon très ferme, de façon infaillible, en 1864, par le pape Pie IX. Le pape Pie IX, en 1864, a publié une encyclique en deux parties. Première partie dans laquelle il a enseigné les principes qu'il appelait Quanta Cura, du nom des premières phrases, des premières lettres, des premiers mots de l'encyclique. Et ensuite, il a rajouté une deuxième partie qu'on appelle le Syllabus, 1964, une liste de 80 propositions condamnées par l'Église. Ces textes sont absolument infaillibles. Ils sont très peu connus. Et je me rappelle Mgr Lefebvre au séminaire qui nous expliquait de tous les textes des deux derniers siècles de l'Église, le plus important, celui que vous devez connaître le mieux, du magistère de l'Église, c'est Quanta Cura le Syllabus. Alors, je n'ai pas le temps de vous les lire, c'est beaucoup trop long, mais je voudrais vous lire la partie clé centrale de Quanta Cura, le Syllabus de Pie IX de 1864. Vous verrez comment parlaient les papes. Quand on compare ça à l'espèce de Jules Boudin, et pas d'autres mots, de pourriture qu'on entend aujourd'hui, voilà comment parlaient les papes. De fait, dit pape Pie IX, c'est infaillible, hein? Vous le savez parfaitement, vénérable frère, là il parle aux évêques. Il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Et quant à la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères, ils affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne se reconnaît pas, où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ces gens ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire, et qui enseigne, voilà la partie condamnée, la partie importante de l'encyclique, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou de toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Et le pape finit en disant « En donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ces gens ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. » Donc le pape Pie IX enseigne infailliblement que la liberté de conscience, c'est-à-dire le choix de choisir ce qui est bon et mal, de mettre notre conscience comme juge de tout ce que nous faisons, au lieu de nous soumettre à la conscience divine, le jour de notre mort, vous ne serez pas jugé selon votre conscience à vous, hein, vous serez jugé selon la conscience du bon Dieu. Ça, le pape Pie IX enseigne infailliblement que cette liberté de conscience est un délire, une liberté de perdition. Eh bien, ces erreurs sont enseignées noir sur blanc, pratiquement sous les mêmes termes condamnés ici par Pie IX, dans le Concile Vatican II. Et je voudrais vous citer, je n'ai pas le temps encore une fois de parler trop longtemps, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais je voudrais vous citer quelques-unes des propositions condamnées dans le syllabus. Le syllabus, donc, qui suit Quanta Cura, est une liste de 80 propositions condamnées par l'Église, pour que les choses soient claires. Voilà, 7 propositions condamnées par l'Église. Attention, condamnées par l'Église catholique, pour toujours, parce que ce sont des textes infaillibles, des textes ex cathedra. Donc c'est pas condamné pour 10 ou 20 ans, c'est condamné toujours aujourd'hui en 2021. Première proposition condamnée, écoutez, parce que c'est des choses qui sont ahurissantes aujourd'hui. On a l'impression que le pape est complètement fou. En fait, il a raison. Voilà ce qu'enseigne le pape. Première proposition condamnée. Il est libre à chaque homme, la proposition 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Proposition 16, condamnée par l'Église. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Proposition 17, condamnée par l'Église. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Proposition 18, condamnée par l'Église. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Proposition 55, condamnée par l'Église. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Proposition 77, condamnée par l'Église. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tous les autres cultes. Proposition 80, la dernière, écoutez bien, condamnée par l'Église. Le pontife romain, le pape, peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Ça, c'est l'Église catholique qui condamne tous ces enseignements qui représentent l'enseignement qu'on entend partout. Partout, dans tous les journaux, toutes les chaînes de télévision, toutes les radios officielles, on entend ça à longueur de journée. Et c'est ça qui est enseigné par Vatican II. Et vous présentez ces propositions à n'importe quel prêtre moderniste, sans lui dire d'où ça vient, en lui disant qu'est-ce que vous pensez de ces propositions. Ah, c'est magnifique, je suis tout à fait d'accord, ça c'est Vatican II. C'est vrai que c'est Vatican II. Le problème, c'est condamné infailliblement comme hérésie par l'Église catholique. Et enfin, dernière objection, je vais finir par ça, auquel il faut répondre. Oui, mais vous comprenez, monsieur l'abbé, ces textes ne sont pas vraiment infaillibles. Alors, attendez, quelles sont les conditions d'infaillibilité? Que le pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Les quatre conditions y sont, ce sont des textes absolument, absolument infaillibles. Alors, mes bien chers frères, ceci doit nous aider à, justement dans ces temps si durs dans lesquels nous vivons aujourd'hui, cela doit nous aider, ces textes doivent nous aider à nous cramponner à la foi catholique. Nous nous rattachons à 20 siècles d'Église, mes bien chers frères. Les idées que je vous défends ici, pendant ce serment, ne sont pas les miennes, ce ne sont pas les idées de l'abbé Lafitte, je n'ai aucune idée personnelle. Je me rappelle un serment que Mgr Lefebvre nous avait donné au début de mon séminaire en 1974, il nous avait dit, l'idée personnelle au séminaire, on n'a rien à faire. Vous avez toute la bibliothèque du séminaire pour vérifier ce que je vous dis et ce que je vous enseigne. On enseigne ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. On ne change rien. Parce que le rôle de l'Église, c'est de garder le dépôt de la foi. C'est d'abord le rôle du pape, mais c'est aussi le rôle de tous les évêques, tous les prêtres, garder le dépôt de la foi. Alors, mes bien chers frères, demandons à la Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est notre mère de l'Église, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous obtenir cette grâce de la foi. La foi, l'espérance et de la charité, ne pas nous décourager aujourd'hui, surtout quand en face de nous, nous avons malheureusement des millions de personnes qui perdent la foi. À la fin des temps, quand je reviendrai, nous a prévenu notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait si je trouverai encore la foi. Donc demandons l'aide de la Très Sainte Vierge Marie pour que nous ne la perdions jamais, cette foi que nous la transmettions à ceux dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.